Chapitre 6. Appelé à l'action. Nous avons donc appris à saturer nos discours en émotions. Soit. Et maintenant, une fois pris nos auditeurs dans le faisceau d'un propos gorgé d'affect, les laisserons-nous là, pantelants et suffocants, attendris ou affolés, anéantis ou exaltés? Parfois, oui. Il arrive que l'émotion seule suffise. Les enfants apprennent vite, par exemple, qu'une petite voix éplorée et de pauvres yeux embués constituent leurs meilleurs atouts pour obtenir un passage chez le confiseur ou le glacier. Ici, la compassion emporte d'elle-même la conviction. Nous préférons céder plutôt que de nous sentir rongés par la culpabilité. Mais ce ne sera pas toujours le cas, notamment lorsque nous dépassons le cadre de la rhétorique du quotidien pour aborder celui de la communication publique. Si nous ne désirons pas seulement obtenir l'adhésion, mais également influer sur les comportements, nous aurons alors besoin d'un levier supplémentaire. Il nous faudra appeler explicitement à l'action. Pour que le procédé soit efficace, il doit absolument reposer sur une tension. D'abord, nous suscitons une émotion qui génère, d'une manière ou d'une autre, un inconfort. Volontairement, nous la laissons en suspens. Ensuite seulement, nous amorçons la transition vers un appel à l'action. Soulagés de se voir offrir une perspective de dénouement, les auditeurs seront prêts à l'accepter pour cesser d'être taraudés. Ils se mettront en mouvement. Ce travail de balancier, nous choisissons de le nommer « pivot émotionnel ». Il est possible de distinguer trois grands types de pivots : peur-solution, espoir-réalisation, indignation-mobilisation. Ceux-ci s'articulent autour des quatre grandes familles d'affects : l'anxiété, l'enthousiasme, l'aversion et la compassion. 1. Peur-solution. Le premier pivot repose sur l'utilisation rhétorique de l'anxiété, derrière laquelle se trouve toute une palette d'émotions, l'inquiétude, l'angoisse, l'effroi. Dans un premier temps, nous attirons l'attention des auditeurs sur la présence d'une menace, probable ou incertaine, imminente ou lointaine, réelle ou imaginaire. Peu à peu, nous laissons s'instiller en eux un insidieux sentiment de peur. Ils n'auront plus alors qu'un désir s'en échapper. Voir, si le danger paraît particulièrement proche, intense et concret, en réchapper. Voilà la tension que nous recherchions. Il ne nous reste plus qu'à laisser miroiter la possibilité d'une solution que nous présentons comme la seule issue possible à cette menace. Si nous avons bien travaillé, nos auditeurs la saisiront avec empressement et soulagement. Ils passeront à l'action. L'anxiété est une famille d'émotions très particulière. De nombreux travaux ont montré qu'elle tendrait à favoriser, chez les auditeurs, la rupture avec l'habitude, l'ouverture aux propositions originales, et le changement de comportement. L'explication en est assez simple. Dès lors que des individus se percevraient comme menacés, ils partiraient en quête d'une solution qui assurerait leur survie. Pour ce faire, ils chercheraient plus avidement de nouvelles informations et, le cas échéant, accepteraient plus facilement de faire évoluer leurs opinions et leurs décisions. Plusieurs chercheurs en sont même venus à se demander si l'anxiété ne pourrait pas être un moteur positif pour la démocratie. Elle semblerait par exemple rendre les citoyens plus vigilants et donc réduire, plutôt qu'accroître, leur tendance à croire de fausses informations. Étude de cas. Je dois réaliser un spot publicitaire incitant à conduire avec prudence. Voilà ce que je propose. L'année dernière, 3239 personnes sont mortes sur la route. Une grande partie d'entre elles avaient des enfants, des petites filles et des petits garçons qui jouaient dans leur chambre en attendant que leurs parents rentrent pour leur lire une histoire. Aujourd'hui, ils pleurent sur leur tombe. Protégez vos enfants. Respectez les limitations. Décryptage. Parce qu'elle tente à favoriser la prise de conscience d'un danger nouveau et la rupture avec les habitudes, l'anxiété apparaît comme l'émotion privilégiée des messages d'alerte et de prévention, qu'il s'agisse de santé publique ou de sécurité routière. Est-ce à dire, alors, que la peur puisse être définitivement considérée comme bénéfique pour le débat public? Restons un peu plus nuancés. D'une part, les travaux de psychologie auxquels nous nous référons ici sont encore récents et ne doivent donc pas être acceptés comme paroles d'évangile. D'autre part, ils interrogent surtout les vertus de l'anxiété et non l'utilisation spécifique du pivot peur-solution. Or, souvenons-nous de la trame générale que nous avons évoquée précédemment. Plus nous ressentons d'émotions, plus nos capacités cognitives sont surchargées et moins nous sommes en mesure de faire appel à nos facultés critiques. Que se passe-t-il alors si, au moment précis où nous sommes sous le coup d'une angoisse intense, l'orateur nous offre une solution simple pour nous y soustraire? Il est probable que nous soyons prompts à l'accepter sur le champ, sans être en mesure de l'examiner rigoureusement. En tant qu'auditrices ou auditeurs, nous ne devons donc en aucun cas cesser de nous interroger. La proposition qui nous est soumise est-elle une réponse adaptée et proportionnée pour lutter contre la menace à laquelle nous sommes confrontés? Cette menace n'a-t-elle pas été surestimée? Voire est-elle bien réelle? Si nous abdiquons notre capacité à nous questionner sans cesse, nous devenons vulnérables à un dangereux stratagème, être poussés à accepter une proposition opportuniste ou inappropriée, dans le vain espoir de lutter contre un danger fantasmé. En tant qu'oratrices ou orateurs, nous n'aurons guère le choix. Quoi que nous en pensions, il nous faudra apprendre à naviguer sur les eaux sombres de l'anxiété, mettre en lumière l'imminence d'un danger, favoriser l'ouverture à de nouvelles possibilités, modifier des comportements bien ancrés. Les trésors qu'elle recèle sont trop précieux pour être ignorés. Lorsque nous devrons ramer contre les courants de l'habitude, quelle que soit notre réticence à l'utiliser, c'est probablement la peur qui se révélera notre meilleur allié. Attention toutefois, il nous faudra savoir rester subtil et mesuré. Plusieurs travaux ont, en effet, montré que si une anxiété palpable favorise effectivement l'acceptation de solutions originales, une peur trop intense provoque, elle, des réactions contre-productives. Lorsqu'ils sont confrontés à une terreur extrême, les auditeurs tendent tout simplement à se couper du message. Ils regardent ailleurs, quittent la pièce, changent de chaîne ou tournent la page. Bref, ils cessent d'écouter. Et quand bien même ils resteraient piégés face à la communication, ils en ressortiraient dans un état de sidération, incitant non à l'action, mais à la démobilisation. Ces réactions peuvent être contrebalancées si, après avoir exposé nos auditeurs à une terrible menace, nous leur offrons une solution fabuleusement efficace. Mais, dans le cas contraire, si notre proposition ne semble pas à la hauteur du danger que nous avons nous-mêmes soulevé, notre rhétorique sera contre-productive. Nous espérions induire le changement, nous ne récolterons que l'engourdissement. Autorisons-nous une parenthèse pour remarquer que c'est exactement le problème que rencontrent aujourd'hui les discours sur le réchauffement climatique. Une grande partie d'entre eux mobilise principalement la peur afin de faire prendre conscience de l'urgence et de la portée des enjeux. D'un point de vue théorique, c'est effectivement le meilleur ressort si l'on désire mettre en évidence l'imminence de la menace, produire des modifications radicales de comportement, voire inciter à la mobilisation politique. Soyons lucides toutefois. Le danger soulevé apparaît incommensurable. La destruction plus ou moins rapide de la société telle que nous la connaissons, sinon même l'extinction plus ou moins complète de l'humanité. Quant aux solutions proposées, elles apparaissent, à tort ou à raison, irréalistes, sortir du capitalisme mondialisé, ou dérisoires, passer au shampoing solide. Résultat, pour protéger leur psyché, une partie des auditeurs entre en résistance. Ils se laissent convaincre par l'argumentation, mais, perdu pour perdu, refusent de passer à l'action. Voire, pour échapper à la terreur et à la sidération, se réfugient dans le déni. Cela signifie-t-il que, paradoxalement, il faille nous passer de l'anxiété lorsque nous en aurions le plus besoin ? Certes non. Il s'agit d'un outil trop précieux pour être boudé. Il nous faudra prendre garde toutefois à ne pas en saturer notre discours. N'utilisons la peur qu'avec parcimonie et adjoignons-lui, si nous le pouvons, d'autres émotions. 2. Espoir-réalisation. Le deuxième pivot consiste à induire dans l'auditoire des émotions relevant de l'enthousiasme, la joie, l'excitation, la fierté. D'où vient alors l'inconfort ? Du fait que la source de ces affects est présentée comme incertaine. Nous ne disons pas que le monde est juste beau ou bon. Nous nous contentons de laisser entendre qu'il pourrait l'être. Nous ne suscitons pas le bonheur, mais plutôt l'espoir du bonheur. Si nous avons fait correctement notre travail, cette première émotion devrait sur le champ en amener une seconde, la frustration. Nos auditeurs viennent de distinguer la possibilité d'un monde meilleur, mais ne savent pas comment s'y rendre. Là voici la tension que nous recherchions. Il ne reste plus qu'à en récolter les fruits en montrant comment cet espoir pourrait connaître une réalisation prochaine. Il suffit de passer à l'action. L'enthousiasme a ceci de particulier qu'il ne nécessite généralement pas de modifier les opinions, les croyances ou les valeurs des auditeurs. Au contraire, il pivote principalement sur des attentes, des désirs, des intentions qui étaient déjà là. Il active des représentations et des aspirations préexistantes. C'est parce qu'une proposition nous fait miroiter ce que nous voulions que nous en concevons de l'espérance. Contrairement à l'anxiété, l'enthousiasme est donc l'émotion du statu quo. Dans le domaine de la communication politique, par exemple, ce sont les partis dits de gouvernement qui tentent à la mobiliser le plus fréquemment. C'est-à-dire, précisément, non pas les forces qui cherchent à bouleverser l'ordre du monde, mais celles qui se proposent plutôt d'aménager les équilibres existants. Étude de cas. Je dois réaliser un spot publicitaire incitant à s'engager pour le climat. Voilà ce que je propose. Un monde vert où, dans les villes, les enfants jouent à l'ombre des arbres. Un monde solidaire où les citoyens s'entraident au quotidien afin que chacun puisse vivre selon ses besoins. Un monde durable où la société ne demande pas à la nature plus qu'elle ne peut offrir. Un monde pérenne où nos enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants pourront continuer de vivre une vie heureuse. Un monde possible pour peu que nous nous en donnions les moyens. Agissez, engagez-vous dès aujourd'hui pour le climat. Décryptage. Selon le contexte dans lequel il sera diffusé, ce spot peut être à la fois un bon et un mauvais exemple. Si nous nous adressons à des individus peu au fait des questions environnementales, l'effet produit sera désastreux. Pourquoi iraient-ils perdre leur temps en un militantisme chronophage s'ils ne sont pas convaincus en premier lieu de la nécessité de bouleverser nos modes de vie ? Ne pourrions-nous pas nous contenter d'adapter progressivement le système existant ? En revanche, si nous nous adressons à des auditeurs déjà conscients du péril climatique, notre campagne pourrait se révéler salutaire. Car, nous l'avons vu, présenter crûment les périls de l'effondrement risquerait de se révéler terrorisant au point d'en être paralysant. Quant au monde d'après, nous aurons du mal à le rendre désirable si nous nous contentons de le dépeindre en négatif, sans avion, sans viande, sans smartphone, autant dire sans plaisir. Il vaut mieux donc rechercher l'espoir. En nous appuyant sur des prémices existantes, la nécessité d'imaginer de nouveaux fondements, mais en les présentant de manière enthousiasmante, un monde plus sobre, certes, mais aussi plus heureux. Au-delà de la communication politique, le pivot espoir-réalisation est mobilisé à foison dans le marketing. C'est, au fond, le ressort de toute publicité, nous faire fantasmer sur des résultats incroyables pour nous vendre le produit qui les rendra réalisables. Vous aimeriez être mince pour l'été ? Venez dans nos salles de sport ! Vous voudriez ne plus jamais avoir à cuisiner ? Téléchargez notre application de livraison. Vous rêvez de faire fortune sur Internet ? Rejoignez notre formation en ligne. Ces exemples peuvent paraître caricaturaux, mais ne nous y trompons pas, si de telles annonces continuent d'être utilisées par de nombreuses marques, c'est qu'elles fonctionnent. Elles sont même redoutablement efficaces. Si un orateur parvient à identifier notre désir le plus enfoui, s'il l'utilise pour nous montrer le rêve que nous osions à peine formuler, puis l'incarne dans une proposition tangible, diantre qu'il sera difficile de la rejeter. Quand bien même nous avons conscience du caractère démesuré de la promesse, il faudra nous retenir pour ne pas y plonger avec allégresse. En tant qu'auditrices ou auditeurs, ne relâchons donc jamais notre attention. Méfions-nous de notre propre exaltation. Et souvenons-nous que les pires mensonges sont précisément ceux qui donnent envie d'être crus. En tant qu'oratrice ou orateur, à contrario, n'hésitons jamais à mobiliser l'enthousiasme. Il se révélera notre meilleur compagnon pour peu que nous ayons les habitudes, les mentalités, les traditions, bref, la normalité de notre côté. Dès lors que nous connaissons les aspirations de notre auditoire et sommes en mesure de les enrôler au service de notre proposition, nous avons tout intérêt à susciter l'espoir, puis à suggérer les conditions de sa réalisation. L'opération est d'autant plus intéressante qu'elle présente peu de risques. Contrairement à l'anxiété, il est improbable que nous parvenions à saturer nos auditeurs d'enthousiasme. Si la terreur peut être paralysante, la ferveur, elle, sera galvanisante. 3. Indignation, mobilisation. Le troisième pivot présente une construction plus complexe que les deux précédents. Le plus souvent, il mobilisera deux types d'affects très différents, mais qui se révéleront être les deux faces d'une même pièce, la compassion et l'aversion. Dans un premier temps, nous attirons l'attention des auditeurs sur une situation que nous présentons comme injuste, scandaleuse ou délétère. Celle-ci met en scène des victimes qui provoquent la tristesse et attirent la pitié. et comporte des responsables qui méritent mépris, dégoût et animosité. Entre ces deux pôles, les auditeurs sont pris dans une tenaille qui suscite deux émotions inconfortables. La colère, principalement. Et la honte, éventuellement, elle n'est rien d'autre que le courroux retourné contre eux-mêmes par les couards qui laissent souffrir sans réagir. Là, voilà notre tension. Confrontés à cette situation insupportable, les auditeurs en concevront une intense indignation. Nous n'aurons plus, alors, qu'à appeler à leur mobilisation. En leur offrant tout à la fois un exutoire à la colère et un remède à la honte, elle apparaîtra comme salvatrice et rédemptrice et incitera à l'action. Plusieurs précisions doivent ici être apportées. Tout d'abord, notons que dans ce schéma, les victimes et les responsables peuvent être aussi bien des individus que des institutions ou des idées. Pour susciter l'indignation, nous pouvons mettre en lumière la précarité d'une centaine d'ouvriers dont l'usine va être délocalisée par un propriétaire vorace. Ou alors dénoncer l'oppression des travailleurs par le système capitaliste. Ramener au premier plan l'agression d'un chauffeur de bus par un délinquant sans papier, ou fustiger la désagrégation de la culture française sous l'effet de l'immigration de masse. Livrer à la vindicte un politicien véreux ayant trahi la confiance des citoyens, ou cingler le système politique qui confisque la souveraineté du peuple. Remarquons également que l'indignation s'appuie, elle aussi, le plus souvent, sur des représentations qui préexistaient chez les auditeurs. Plutôt que d'avoir à susciter de difficiles prises de conscience, nous nous contentons d'activer des ressentiments préexistants, que nous renforçons, tisonnons, chauffons à blanc. Ceci se cristallise non plus en l'espérance d'un monde meilleur, mais en hostilité à l'égard d'un ennemi sans cœur. Pour cette raison, d'ailleurs, l'indignation n'est pas totalement étrangère à une autre émotion qui relève plutôt des variations de la joie, la fierté. Fierté d'appartenir à un groupe d'autant plus soudé qu'il se perçoit comme menacé. Fierté d'avoir le courage de se mobiliser pour lutter contre le danger. Étude de cas. Je dois réaliser un spot publicitaire incitant à lutter contre la malnutrition. Voilà ce que je propose. Toutes les 4 secondes dans le monde, un être humain meurt faute d'accès à la nourriture. Les coupables, la guerre, la sécheresse, la corruption. Mais aussi l'indifférence. Depuis le début de ce spot, pendant que vous êtes confortablement installé dans votre canapé, 2 personnes sont déjà mortes. À l'instant, une 3e vient de décéder. Ne restez pas sans rien faire. Donnez. Décryptage. Tout efficace qu'il soit, ce spot n'en constitue pas moins une exception dans l'utilisation du pivot indignation-mobilisation. À la faveur d'un revirement inattendu, nous plaçons explicitement nos auditeurs dans le rôle non d'observateurs, mais bien de persécuteurs. Le ressort principal est donc la honte, beaucoup plus que la colère. La plupart du temps, c'est pourtant sur cette dernière que nous nous appuierons plus volontiers. C'est notamment le cas en ce qui concerne le débat public. Plusieurs études ont montré que, contrairement aux idées reçues, les forces politiques qualifiées de « populistes » ont en réalité tendance à mobiliser davantage l'indignation que la peur. La même remarque vaut pour les réseaux sociaux, où il est bien établi désormais que ce sont les messages suscitant de l'indignation qui se diffusent le plus vite, quand bien même les informations qui le contiendraient seraient fausses. En tant qu'auditrices ou auditeurs, une fois encore, tout ce que nous pouvons faire, c'est ne jamais cesser de nous interroger. quand bien même nous ressentirions une colère vibrante ou une honte cuisante, ces émotions ont-elles été soulevées à propos? Les responsables désignés sont-ils bien les seuls à blâmer? Les victimes sont-elles les seules à plaindre? L'indignation est, hélas, une formidable machine à écraser la complexité du monde. Celui-ci se voit soudain réduit à une opposition frontale entre opprimés et oppresseurs. Prenons alors le temps de nous demander, si nous adoptions un point de vue davantage nuancé, serions-nous toujours prêts à nous mobiliser? À l'inverse, en tant qu'oratrices ou orateurs, le pivot indignation-mobilisation est un outil trop riche pour être laissé de côté. Nous venons de le voir, à travers ses multiples configurations de rôles et d'émotions, il se révèle adapté à de très nombreuses situations et s'impose comme un puissant ferment de l'action.